10. Réciprocité. Nous venons de voir que tout ce qui, dans le trajet, rend le transport onéreux, agit dans le sens de la protection, ou si on l'aime mieux, que la protection agit dans le sens de tout ce qui rend le transport onéreux. Il est donc vrai de dire qu'un tarif est un marais, une ornière, une lacune, une pantraide, en un mot, un obstacle dont l'effet se résout à augmenter la différence du prix de consommation au prix de production. Il est de même incontestable qu'un marais, une fondrière, sont de véritables tarifs protecteurs. Il y a des gens, en petit nombre, il est vrai, mais il y en a, qui commencent à comprendre que les obstacles, pour être artificiels, n'en sont pas moins des obstacles, et que notre bien-être a plus à gagner à la liberté qu'à la protection, précisément par la même raison qui fait qu'un canal lui est plus favorable qu'un chemin sablonneux, montant et malaisé. Mais disent-ils, il faut que cette liberté soit réciproque. Si nous abaissions nos barrières devant l'Espagne sans que l'Espagne les abaissât devant nous, évidemment nous serions dupes. Faisons donc des traités de commerce sur la base d'une juste réciprocité. Concédons pour qu'on nous concède. Faisons le sacrifice d'acheter pour obtenir l'avantage de vendre. Les personnes qui raisonnent ainsi, je suis fâché de le leur dire, sont, qu'elles le sachent ou non, dans le principe de la protection. Seulement, elles sont un peu plus inconséquentes que les protectionnistes purs, comme ceux-ci sont plus inconséquents que les protectionnistes absolus. Je le démontrerai par l'apologue suivant. Stulta et Puera. Il y avait, n'importe où, deux villes, Stulta et Puera. Elles construisirent à gros frais une route qui les rattachait l'une à l'autre. Quand cela fut fait, Stulta se dit « Voici que Puera m'inonde de ses produits, il faut y aviser. » En conséquence, elle créa et paya un corps d'enrayeurs, ainsi nommé parce que leur mission était de mettre des obstacles au convoi qui arrivait de Puera. Bientôt après, Puera eut aussi un corps d'enrayeurs. Au bout de quelques siècles, les Lumières ayant fait de grands progrès, la capacité de Puera se haussa jusqu'à lui faire découvrir que ces obstacles réciproques pourraient bien n'être que réciproquement nuisibles. Elle envoya un diplomate à Stulta, lequel, sauf la phraséologie officielle, parla en ce sens. « Nous avons créé une route et maintenant nous embarrassons cette route. Cela est absurde. » Mieux eût valu laisser les choses dans leur premier état. Nous n'aurions pas eu à payer la route d'abord et puis les embarras. Au nom de Puera, je viens vous proposer non point de renoncer tout à coup à nous opposer des obstacles mutuels, ce serait agir selon un principe, et nous méprisons autant que vous les principes, mais d'atténuer quelque peu ces obstacles en ayant soin de pondérer équitablement à cet égard nos sacrifices respectifs. Ainsi parla le diplomate. Stulta demanda du temps pour réfléchir. Elle consulta tour à tour ses fabricants, ses agriculteurs. Enfin, au bout de quelques années, elle déclara que les négociations étaient rompues. À cette nouvelle, les habitants de Puera tinrent conseil. Un vieillard, on a toujours soupçonné qu'il avait été secrètement acheté par Stulta, se leva et dit « Les obstacles créés par Stulta nuisent à nos ventes, c'est un malheur. Ceux que nous avons créés nuisent à nos achats, et c'est un autre malheur. Nous ne pouvons rien sur le premier, mais le second dépend de nous. Délivrons-nous au moins de l'un, puisque nous ne pouvons nous défaire des deux. Supprimons nos enrayeurs, sans exiger que Stulta en fasse autant. Un jour, sans doute, elle apprendra à mieux faire ses comptes. » Un second conseiller, homme de pratique et de fait, exempt de principes et nourri de la vieille expérience des ancêtres, répliqua « N'écoutons pas ce rêveur, ce théoricien, ce novateur, cet utopiste, cet économiste, ce stultomane. Nous serions perdus si les embarras de la route n'étaient pas bien égalisés, équilibrés et pondérés entre Stulta et Puera. Il y aurait plus de difficultés pour aller que pour venir, et pour exporter que pour importer. Nous serions relativement à Stulta dans les conditions d'infériorité où se trouvent Le Havre, Nantes, Bordeaux, Lisbonne, Londres, Hambourg, la Nouvelle-Orléans par rapport aux villes placées aux sources de la Seine, de la Loire, de la Garonne, du Tage, de la Tamise, de l'Elbe et du Mississippi, car il y a plus de difficultés à remonter les fleuves qu'à les descendre. Une voix. Les villes des embouchures ont prospéré plus que celles des sources. Ce n'est pas possible. La même voix, mais cela est. Eh bien, elles ont prospéré contre les règles. Un raisonnement si concluant ébranla l'assemblée. L'orateur acheva de la convaincre en parlant d'indépendance nationale, d'honneur national, de dignité nationale, de travail national, d'inondation de produits, de tribus, de concurrence meurtrière. Bref, il emporta le maintien des obstacles, et si vous en êtes curieux, je puis vous conduire en certains pays où vous verrez de vos yeux des cantonniers et des enrayeurs travaillant de la meilleure intelligence du monde, par décret de la même assemblée législative et aux frais des mêmes contribuables, les uns à déblayer la route et les autres à l'embarrasser.